Avez-vous un blog? Puis si vous avez un blog, qu'est-ce que vous dites là-dedans? Parlez-vous d'un sujet qui vous intéresse ou vous faites simplement parler pour parler? Parce que un blog, généralement, c'est un carnet personnel où on parle des choses qui nous intéressent. Mais à un certain moment donné, pour certaines personnes, un blog, ça devient un outil de promotion, évidemment. Mais aussi, ils deviennent pris dans ce jeu-là d'avoir toujours à publier quelque chose sans nécessairement avoir quelque chose de pertinent à dire. Comme par exemple, bien des gens reprennent tout simplement l'information hot de l'heure, tout simplement pour créer du buzz, pour attirer des gens vers leur site et faire en sorte que les gens retournent vers leur site. Mais est-ce que c'est pertinent pour autant? Je trouve qu'on diminue à quelque part la valeur du contenu qu'on publie normalement et on s'oblige aussi à publier des choses même si on n'a vraiment rien à dire sur le sujet. Et qu'est-ce qui m'a inspiré ça? Ben, j'avais rien à dire en entrée d'émission. Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez le 57e Québec en balado-diffusion. Moi, c'est un peu ironique que le fait d'essayer de trouver un sujet intéressant m'ait amené à parler de ça. j'aurais pu aussi vous parler du link baiting, un sujet qu'on entend souvent parler dernièrement, c'est d'utiliser toutes sortes de techniques pour faire en sorte que les gens mettent des liens vers notre site. Comme ça, on va être mieux répertorié dans Google. C'est très, très, très questionné, c'est très douteux. Il y a certaines personnes qui font du link baiting naturel, c'est-à-dire que oui, ils trouvent des façons de faire en sorte d'inciter les gens à mettre des liens. Mais aussi, il y a du link baiting très organisé, c'est-à-dire on se met ensemble une gang de chums et on met des liens vers un site en particulier. Et comme ça, ben, on inonde le web, on inonde Google de ces liens-là. Et puis, ben, ça aide le site en question à ressortir dans Google. Donc, oui, il y a des gens qui font ça. Oui, il y a des gens dont c'est le métier de faire ça, de faire du référencement organisé, si je peux dire. Il y a toutes sortes de techniques comme ça. Bon, certaines personnes appellent ça du black marketing. Il y a aussi des gens qui créent des faux blogs qui redirigent vers leur site. Donc, ça les aide un peu à se carrer dans Google. Donc, il y a toutes sortes d'un peu de façons de faire comme ça qui sont tout aussi douteuses les unes que les autres. Mais, ça fonctionne. Et il y a des gens qui se font payer très cher pour faire ça. Donc, voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'émission cette semaine? Je vais vous parler un peu de la brasserie Molson. Je vais vous parler légèrement de Webcom, du système Android de Google, d'un nouveau projet, ainsi que des podcasts qui m'ont été fournis. Et à la toute fin de l'émission, il y a eu une entrevue avec quelqu'un de l'ONF.
Stéphane Bousquet, directeur des entreprises numériques à l'Office national du film du Canada.
Molson? Eh oui, qui dit Molson dit bière. Ben pour mes amis européens qui ne connaissent pas la brasserie Molson, ben c'est ça, c'est la plus grande brasserie du Canada. Donc, ce n'est pas une microbrasserie, c'est une brasserie très, très, très industrielle. Et pourquoi je parle d'eux autres? Ben parce qu'ils nous ont invités à un événement l'autre jour. Et qu'est-ce que vous avez entendu pour le carburant de la semaine? C'est une nouvelle bière. Une des deux nouvelles bières qui ont sorti récemment, ça s'appelle la Rickard's Dark. C'est la bière qu'ils nous ont invités à goûter l'autre jour. Je la boirai même la bouteille. On s'entend de la Molson, ça n'a pas nécessairement besoin d'un verre. La Rickard's Dark, c'est quoi? C'est un porter avec un peu d'érable dedans. Donc, c'est une bière assez foncée. Je peux vous dire qu'est-ce qu'elle a l'air parce que je l'ai déjà bu dans un verre. Elle a vraiment la couleur du coke, elle a des reflets rouges. Elle n'est pas totalement opaque, elle laisse passer un peu la lumière. Elle n'a pas autant de matière que ça à l'intérieur qui la rendrait opaque. Donc, c'est un porter très, très léger avec un soupçon de sirop d'érable. Ce qui fait en sorte que ça fait une bière qui, malgré qu'elle soit foncée, malgré qu'elle soit goûteuse un, un peu. C'est quand même une bière de ma tante, je dirais. Où est-ce que la bière n'est pas amère? La bière, elle a un petit peu de goût, mais pas trop. Elle est quand même douce. Elle est quand même assez sucrée. Il y a un peu de sucre dedans. Donc, ça fait en sorte que ça se boit tout seul par monsieur, madame, tout le monde. Et ça leur donne l'impression qu'ils boivent des bières très costaudes. qu'est-ce que ça goûte? Ben, en fait, c'est drôle, hein? Prenez, par exemple, une bière, un porter qui n'est pas très fort en alcool, mélangez-le avec une bière très, très légère et ajoutez un peu de sirop d'érable dedans, quelques gouttes, puis c'est à peu près ce que ça va donner. Je vais la goûter devant vos oreilles. Vous voyez, ce qui est drôle là-dedans, c'est que son goût est encore moins prononcé que ce que je me rappelais. Simplement pour vous dire que ben, Molson, c'est une brasserie quand même industrielle et cette bière-là, comparée aux autres, elle a quand même un peu plus de goût. Je dois dire que être dans un endroit où est-ce qu'on a le choix seulement dans les produits Molson, ça serait probablement le produit que je prendrais. Rickers, qui est une microbrasserie de l'Ouest qui avait été rachetée par Molson. Donc, pourquoi je vous parle de cette bière-là? Ben, c'est simple, c'est parce qu'on a été invité à aller la goûter. On nous avait dit au départ, mais il y a une petite soirée, un petit tweet-up, lancement de la bière Rickards Dark. Donc, je me dis, OK, c'est le fun, je vais y aller. J'avais d'autres choses de prévues juste avant, donc je savais que j'allais arriver un peu en retard. Sauf que je crois que c'est la journée même, un des organisateurs chez Molson m'a dit, ah, mais c'est un souper, tout ça, dans le style Au Noir, qui est un restaurant qu'eux connaissent peut-être à Toronto. Où est-ce qu'on va là les yeux bandés et on mange les yeux bandés. Donc, je fais comme OK. Sauf que, arrivé là-bas, je pensais que c'était un gros événement organisé. Non, on était peut-être quoi, une douzaine ou une quinzaine. Et c'est le chef Yann Perrault qui nous faisait la bouffe. J'ai été extrêmement surpris. Je dois dire que c'était un événement vraiment le fun, très, très plaisant. Il y avait quelques personnes des médias sociaux. Par exemple, Bob Goyetch, il y avait Kim Valley, il y avait Eva Blue, il y avait en tout cas, bref, quelques personnes comme ça. Donc, c'était très agréable, totalement inattendu. Puis, le chef Yann Perrault a fait toutes sortes de trucs auxquels il a marié la bière ou peut-être il s'est inspiré de la bière pour fabriquer. En fait, il a fait un genre de gravlax de saumon, un tartare de bœuf, assez surprenant aussi. Mais le truc le plus intéressant qu'il a fait, des genres de ribs, où est-ce que il a enlevé la viande des ribs un coup qu'ils ont fait cuire, tout ça. Il les a mis dans des dumplings. C'était à se rouler par terre, je vous jure. C'était très bon. Donc, on remercie Molson de l'initiative et à très bientôt. Avant d'aller plus loin, je vais jouer une chanson. C'est IRM de Charlotte Gainsbourg. Pour ceux qui ne le savent pas encore, mais Charlotte Gainsbourg a travaillé avec Beck, cet Américain virtuose, qui est aussi un fan fini de Serge Gainsbourg. Peut-être que la collaboration est devenue un peu naturelle. Pour ceux qui ne le savent pas, l'album sort cette semaine et la seule reprise qui est aussi la seule chanson française qui est sur l'album, c'est une chanson de Jean-Pierre Ferland. Tiré de l'album Jaune et c'est drôle parce que la suggestion venait pas de Charlotte Gainsbourg qui connaissait pas du tout cet album-là. Non, c'est venu de Beck, donc encore plus surprenant. Je vous laisse avec cette chanson-là, je vous reparle tout de suite après. Spider. Je vais simplement vous mentionner le Webcom. Pourquoi le Webcom qui a eu lieu quoi au mois d'octobre? Parce que j'ai fait une conférence et la version en vidéo est en ligne. Donc, si ça vous tente d'entendre ce que j'avais à dire sur les médias traditionnels versus les médias sociaux, ou plutôt ce que les médias traditionnels font dans les médias sociaux, allez écouter ça, c'est quand même digne d'intérêt et j'ai bien rigolé. Ben oui, je vais vous parler légèrement, très légèrement du système Android de Google. J'en parlerai pas tant que ça parce que je le connais pas. Je le connais simplement pour l'avoir essayé quelques minutes sur le téléphone d'un ami. Sinon, pourquoi j'en parle? Ben c'est parce qu'il y a un petit logiciel qui s'appelle Listen qui sert à quoi? Ben c'est un podcatcher. Ça sert à écouter des podcasts. Donc, si vous avez un téléphone Android qui tourne sous Android et que vous aimez écouter des podcasts, dont cette émission, ben, garochez-vous tout de suite sur Listen. Moi, j'ai entendu parler de Dave Winer que je suis sur Twitter et qui est l'inventeur vraiment du podcasting, de la mécanique, c'est-à-dire d'encapsuler des fichiers audio vidéo dans un fil RSS. Donc, il l'a recommandé, il disait que bon, l'intégration n'était pas encore parfaite, mais que c'est vraiment mieux que, à son avis à lui, je pense que ce que Apple fait. Donc, allez regarder ça si vous avez un téléphone Android. Oui, j'ai un nouveau projet sur, je dirais pas sur la glace, mais plutôt sur le feu, en fait. Vous savez que je fais le podcast de Mac Québec avec Laurent Lassalle et Laurent Maisonneuve. Et puis, bien, Kim, à qui appartient Mac Québec, bien, avait l'idée de faire des vidéos. J'ai dit, bien, j'ai une idée qui me trotte en tête depuis un an. Laisse-moi le faire. Je vais le faire de mon côté. Je vais te le montrer. Fait que je l'ai fait. Ça s'appelle dans mon iPhone. C'est quoi? Mais c'est des capsules vidéo qui parlent d'applications iPhone, tout simplement. Et puis, bien, comme je le dis, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un an. Et comme j'ai 10 millions de projets, bien, je n'avais pas encore réalisé. Sauf que le moment était bien choisi, je pense. Et je l'ai fait. Donc, il y a une démo de ça. Reste à concrétiser tout ça. Je suis en train de produire plusieurs capsules comme ça sous le même modèle. Donc, restez à l'écoute. Je vais vous en reparler. Sinon, si ça vous tente d'aller voir la démo, je mets un lien dans les notes de l'émission. C'est l'heure de vous parler des nouveaux podcasts. Donc, le tout premier, c'est un podcast de Radio-Canada. Pourquoi j'en parle? Ben parce que généralement, je ne parle pas des podcasts qui viennent d'institutions ou, par exemple, de radio traditionnelle, sauf que celui-là, il est digne de mention parce qu'il n'est pas disponible sur la radio normale. C'est un vrai podcast qui a été conçu vraiment comme ça et ça s'entend. On a un feeling qui est vraiment différent qu'une émission de radio, c'est moins parfaitement structuré, parfaitement rodé au quart de tour, où est-ce que les gens se sentent obligés de parler puis de livrer leur message en dedans du 2 minutes prévu. Donc, qui anime ça? Ben, c'est co-animé par Philippe Marcoux, Louis Lemieux, Marie-Claude Bocage, Jean-Philippe Wautier et Bruno Gouliel-Minetti, qu'on connaît pour le Carnet Techno, qui est aussi le réalisateur de Christiane Charette. Donc, je vous mets un lien dans les notes de l'émission. Il parle de quoi? Ben, il parle de technologie, il parle d'expérience utilisateur et ils ont dit que, je crois que c'est après Noël, ils aimeraient faire enregistrer live et avoir les commentaires des gens à mesure qui enregistrent. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est un peu la technique qu'on utilise, nous, à Mac Québec, c'est-à-dire d'enregistrer et diffuser live et recevoir les commentaires. Donc, j'ai hâte de voir si eux le feront seulement en audio ou bien s'ils le feront en audio et en vidéo. L'émission suivante s'appelle Négation Standard. C'est produit à Québec depuis le 8 mars 2009. Les deux personnes qui animent s'appellent Verbose, en parenthèse, plus V, et Miss T. C'est produit de façon bimensuelle. Les sujets abordés sont les suivants. Actualité, technologie, art et spectacle. Leur public visé, mais il n'y a pas vraiment de groupe d'âge, c'est surtout les geeks. Donc, je crois qu'on cible assez bien comme ça. Et je vous fais la description qu'ils m'ont donnée. Qu'est-ce que Négation Standard? C'est d'abord et avant tout un podcast de V+ et Misty où nous discutons de l'actualité technologique et de culture underground. Notre centre d'intérêt est le Québec, la francophonie, mais aussi le monde entier. Donc, je vous mets le lien dans les notes de l'émission si jamais ça peut vous intéresser. Les trois prochains podcasts sont tous des projets qui sont faits par Zeke. Je ne sais pas si vous connaissez Zeke, c'est les gens qui sont à Montréal, qui sont un peu dans le milieu web, geek, etc., le connaissent peut-être. Il se présente des fois à Yuleblog. Donc, il s'appelle Chris Hand. Il se fait surnommer Zeke. Donc, le premier podcast, ça s'appelle The Montreal Burger Report. C'est produit à Montréal depuis le mois d'avril dernier. Et les deux animateurs sont Chris Zeke Hand et Ed Hako, qu'il dit « also known as Blork ». C'est produit de façon hebdomadaire et les sujets abordés, c'est quoi? Ben, c'est les hamburgers, les frites et la bière. Il vise tout le monde avec ce podcast et je vous fais la description qu'ils m'ont donnée. Two men, two burgers, some beer. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils parlent des places pour manger des hamburgers. Donc, pas simplement des hamburgers traditionnels avec une galette de steak haché et entre deux pains. Non, parfois, ils vont à des endroits qui sont un petit peu plus fancy et ils nous font la description. Donc, c'est assez intéressant. Le deuxième podcast qui produit Zeke, c'est Movement Museum. C'est produit à Montréal depuis mars dernier. Les animateurs sont les suivants. Finn Upham, Dorothea C. Kelly, Rachel Nee Chuin, Fonde Vuono Powell, John Krellin, Serena Isles, Karen Fennell et Chris Zeke And. C'est produit de façon hebdomadaire. Le sujet abordé, c'est la danse. Donc, ils visent tout le monde encore une fois et je vous donne la description qu'ils m'ont donnée. Talking about dance in Montreal on your computer. C'est assez simple. Le dernier podcast de la liste est toujours produit par Zeke. C'est Zeke's Alternate Art. Donc, c'est produit à Montréal depuis septembre 2008 par Chris Zeke Hand. C'est fait de façon hebdomadaire et le sujet abordé et l'art en général. Il vise tout le monde avec ce podcast-là et sa description est aussi simple que ça. Talking Art. Donc, c'est un personnage assez sympathique, Zeke. Si ça vous intéresse, c'est tout en anglais, évidemment, mais je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire jouer une autre chanson. C'est une chanson de Serge Gainsbourg, le papa de le papa de l'autre. Pourquoi je vous fais jouer ça? Ben, c'est justement pour rester dans le thème Gainsbourg, mais aussi c'est pour vous parler que le film sur la vie de Gainsbourg s'en vient très très bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le type qui joue Gainsbourg, sans lui ressembler parfaitement, a vraiment... les manières de Gainsbourg, c'est assez hallucinant comme il rend bien le personnage sans en faire une imitation. C'est vraiment bien. Puis aussi, le casting est bon pour plusieurs personnages, entre autres. C'est Laetitia Casta qui teinte en blonde, joue Bardot et c'est très, très, très crédible. Donc, ça s'en vient très bientôt. Je vous laisse avec cette chanson-là, puis tout de suite après, j'ai une entrevue avec Stéphane Bousquet qui travaille à l'ONF.
L'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il nous fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Donc, je m'entretiens avec Stéphane Bousquet. Stéphane est directeur des entreprises numériques à l'ONF. Bonjour, Stéphane.
Bonjour.
Donc, il y a eu un projet récemment qui a attiré beaucoup l'attention sur l'ONF, oui. Qui est l'application iPhone de l'ONF. Peux-tu nous en parler un tout petit peu?
Donc, l'application qu'on a développée pour la plateforme iPhone et iPod Touch est une application gratuite, disponible sur une base mondiale. Et puis, le but de cette application, c'est de rendre disponible sur une plateforme mobile l'ensemble de la collection en ligne de l'ONF.
Et quand est-ce que le développement de ce projet-là a commencé?
Au début de l'été, donc 2009. Et puis, ça a commencé par, en fait, une série de rencontres à l'interne où on faisait d'abord et avant tout de la vigie. On a passé les premiers temps à voir si le timing était bon pour le faire. Alors, bon, il y avait toute la question de la technologie, à savoir est-ce que la plateforme était suffisamment mature. L'arrivée du iPhone 3GS et la nouvelle génération de iPod Touch fait en sorte qu'on est arrivé à cette conclusion-là que oui, maintenant, les terminaux étaient suffisamment puissants pour pouvoir permettre la diffusion de longs métrages complets. Et il y avait la question aussi d'une certaine masse critique là au niveau de la clientèle. Et puis cet été là, donc on est arrivé à la conclusion là que le timing était bon pour commencer le développement.
Justement, mettre en place des choses comme ça, j'imagine qu'il y a une question de droit d'auteur aussi là-dedans. Est-ce que ça a été problématique de votre côté à gérer ça?
C'est la problématique fondamentale qui est liée à toutes nos opérations dans l'espace numérique. La collection de l'ONF, c'est une collection de 13 000 films, dont les premiers remontent à il y a 70 ans. Mais évidemment, les plateformes numériques n'existaient pas. Alors, toute la question là des droits liés aux nouvelles plateformes, bien évidemment, là, ça nous emmène dans une espèce de no man's land juridique où il existe des bases maintenant, mais c'est encore très complexe. Et puis, faire l'acquisition de droits d'exploitation Internet, pour que ce soit des films qu'on a produits en coproduction ou pour des films qui font usage de certaines musiques de scène ou qui font appel à des comédiens ou qui font usage de matériel provenant d'archives, par exemple de Radio-Canada ou de la BBC ou d'autres sources comme ça. Ça implique tout un processus d'affranchissement de droits. Pour nous, tout le nerf de la guerre est là. Heureusement, ce qui nous a aidé dans le cas de l'application iPhone, c'est que bon, ONF.ca est en ligne depuis maintenant plus de 10 mois. Et il y a énormément de travail qui a été fait pour ONF.ca. Alors, comme l'application iPhone puise dans la même base de données, c'est ce qui nous a permis d'offrir tout de suite en partant au-delà de 1000 films via l'application. Sauf que là, c'est ça. À partir de maintenant et pour jusqu'à la fin des temps, ben ça va toujours être notre défi majeur, à savoir bon ben là, comment faire pour augmenter la collection de semaine en semaine, de mois en mois.
Tu me disais toute la collection qui est en ligne de l'ONF est disponible à partir du iPhone, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est exact.
Donc ça règle un problème qui était quand même assez important, c'est de réussir à amener le contenu à l'utilisateur.
Absolument. Puis nous, ben, ça s'inscrit tout à fait là, dans notre plan stratégique, qui est fort simple, d'offrir un maximum de rayonnement à l'ONF et à ses œuvres. Le défi majeur auquel on faisait face, c'était, si on veut, pardonner l'expression, là, mais de remettre l'ONF sur la map. Là. C'est pour ça que notre présence en ligne est extrêmement agressive. C'est pour ça aussi que tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant a toujours été gratuit. Tout ce qu'on fait a toujours été donc dans une perspective de distribution mondiale et tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant n'est sous aucune circonstance géobloqué ou il n'y a absolument aucune barrière à l'entrée pour nos comptes.
Puis d'ailleurs, l'application a été une des plus téléchargées dans le iTunes Store canadien.
En fait, on s'est rendu au numéro 3.
Au numéro 3.
Le numéro 1 a malheureusement pas été atteint parce qu'en ce moment, il y a une espèce de petit jeu qui est en train de faire fureur sur le iPhone. Mais actuellement, on est en fait presque dès le premier jour et même jusqu'à aujourd'hui, on est numéro 1 dans la section divertissement. Je dirais pas qu'on s'était mis des objectifs bas, mais ça a dépassé toutes nos attentes. C'est vraiment un succès inespéré.
Puis ça a été quoi l'impact au niveau du nombre de visionnements, par exemple, des films?
Durant la première semaine, donc suivant la mise en marché de l'application, certains jours, les visionnements ont doublé et même qu'on a pu voir qu'il y a eu un jour ou deux durant cette semaine-là que le iPhone a généré plus de visionnements que le site web. Alors ça, c'était vraiment fantastique. Là. Ce qu'on est en train de remarquer, c'est que l'utilisateur moyen ou le propriétaire moyen de iPhone est un citoyen ou un client, si on peut appelons-le comme on veut, là, mais avec qui l'ONF et ce que fait l'ONF, on a beaucoup d'affinités avec ces gens-là.
Oui, puis j'imagine que les commentaires que vous recevez sont en général très positifs.
C'est drôle, on voit deux choses. Lorsque on regarde notre cote, là, notre fameux rating dans la boutique iTunes, on se situe en ce moment à 3,5 étoiles. Du feedback, des critiques, des reviews, on en a reçu là, quelques centaines. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la grande majorité, la moitié des critiques, je veux dire, sont soit 5 étoiles ou 1 étoile. Les critiques d'une étoile, eux autres, on les évacue d'entrée de jeu parce qu'on veut faire des excès de positivisme. Mais ce qu'on se dit, c'est que les gens qui ont probablement donné une cote d'une étoile, c'est beaucoup de gens qui ont entendu parler de l'application parce que c'est quelque chose qui a été retweeté puis blogué là vraiment là, à la grandeur d'Amérique du Nord. Fait qu'il y a eu un effet de curiosité. Et puis, tu sais, des gens qui connaissent pas du tout l'ONF ou NFB, eux, tout ce qu'ils voient, c'est hey, first iPhone app. Des milliers de films gratuits, complets et tout ça. Alors, quelqu'un qui connaît pas l'ONF se dit peut-être, hey, c'est le fun, une application de film, je vais pouvoir regarder Batman ou Spider-Man ou Le Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça. Puis là, il tombe sur une application qui présente des documentaires. Ben là, tu sais, il désenchante, puis il désinstalle, puis il donne une étoile parce qu'il est déçu du contenu. Alors, ceux-là, on n'en tient pas compte. Et lorsqu'on regarde le reste, mais là, évidemment, c'est sans équivoque. Là, c'est pratiquement toujours du 5 étoiles. Et puis, ceux qui prennent même le temps de commenter et de laisser un message un peu plus personnalisé, ben écoutez, c'est des messages qui font extrêmement, extrêmement chaud au cœur, là, parce que c'est pas juste des « bravo, j'aime ça », là, c'est des... les gens parlent de trésor national, les gens parlent de « greatest iPhone app ever », puis tu sais, je veux dire, ça va vraiment dans l'hyperbole, là, et constamment, là, ça fait que... Fait qu'on est content de ce côté-là aussi.
C'est sûr que je voulais te parler aussi parce que, bon, avant, tu as été à Radio-Canada, qui est une autre structure paragouvernementale. C'est sûr que le contexte, évidemment, est différent à l'ONF. Le Radio-Canada a un peu plus des considérations au niveau rentabilité qui sont différentes de l'ONF. Est-ce que tu trouves que ça joue sur la création, que ça joue sur ce qui est développé, par exemple, comme site web ou comme application?
Du côté de Radio-Canada, la déficience en créativité, c'est pas un problème chez eux. L'équipe avec qui j'ai eu le grand plaisir et le grand privilège de travailler pendant près de 10 ans, je veux dire, c'est une équipe de gens exceptionnels. Puis l'équipe qui est actuellement en place, je veux dire, il y a parmi les meilleures têtes du monde du web et du monde du numérique, là, de ce côté-là. Mais ce qui fait que Radio-Canada est aux prises avec des contraintes qui sont très, très particulières. Parce qu'ils sont un service public, ben, ils ont ce devoir d'innovation. Sauf que ils se retrouvent à l'intérieur d'un écosystème qui est vraiment sans pitié, là, qui est celui de la télévision et de la radio. Donc, ça, le fait de se retrouver dans cet univers-là, on se retrouve de facto là aux prises avec des impératifs là qui sont immuables. Mais au-delà de la question financière, je te dirais, il y a une réalité qui est celle de la grille horaire, la pression des grilles horaires.
Ouais.
La télé, le milieu de la télé au Québec, c'est un milieu qui est extrêmement agressif, qui est extrêmement dur, et puis tu sais, la compétition pour la cote d'écoute et puis la compétition pour tu sais, de devoir monter des grilles horaires qui soient pertinentes et intéressantes pour le public, ça c'est quelque chose qui pèse très très lourd au sein d'une équipe web, une équipe numérique qui, elle, n'a pas nécessairement, tu sais, je veux dire, la nature de la bête web, tu sais, des considérations de temps, de durée et tout ça, il y en a pas, là, il y en a pas. Alors que du côté de la télé, ben, regarde, c'est pas compliqué, le 4 septembre, la grille horaire d'automne commence. Fait que déjà là, bang, t'as un gros deadline d'en face. Après ça, ben là, t'as la grille d'hiver qui commence, mettons, le 6 janvier. Alors là, tu te retrouves avec un autre deadline. T'as la grille d'été à respecter. Fait que déjà là, à l'intérieur de ton calendrier, t'as des espèces de jalons où tu te dois absolument de livrer des contenus, mais de manière massive, là. Tu sais, c'est pas juste de livrer un site web d'émission, là. Tu sais, des fois, là, il y a des grilles horaires qui changent du tout au tout, là. Alors, tu te retrouves avec des livrables multiples qui sont tous dus en même temps. Fait que, écoute, c'est un cauchemar de logistique, là, cette affaire-là. Donc, évidemment, ça, c'est une réalité qui fait en sorte que ça peut avoir un impact vraiment très sérieux sur ta capacité d'innover, parce que tu as cette obligation-là de livrer. Puis, tu sais, moi, je regarde ça, j'ai été là longtemps à Radio-Canada, puis je regarde mon ancienne gang, la manière dont ils se débrouillent à l'intérieur de ça, là, puis je veux dire, ils font vraiment un travail vraiment, vraiment admirable. Là, parce que, fait que moi, quand je vois un maire indigne se pointer en ligne, je me dis, wow, tu sais, vraiment, là, tu sais, quand tu sais comment ça fonctionne sous le capot dans ce boîte-là, qu'ils réussissent à trouver le temps, les moyens, l'énergie pour sortir, pour produire une série comme Mère Indigne ou Remix ou leur propre application iPhone qu'ils ont développée pour la radio de Radio-Canada, tu te dis waouh, chapeau là.
Ouais, mais tu sais, dans les médias télé, radio, tu sais, il faut pas se le cacher, c'est quand même Radio-Canada qui innove le plus au Québec là. Tu sais, si on compare avec ce que font les autres se contentent bien souvent de redistribuer le contenu en live sur le web ou un peu en différé, tandis que Radio-Canada développe vraiment des projets uniques au web.
Ouais, j'ai tendance à être d'accord avec toi.
Juste avant de terminer, je voulais savoir quels sont les autres projets chauds web pour l'ONF en ce moment ou qu'est-ce qui s'en vient de chaud que tu as le droit de nous parler?
Ce que je peux vous dire, c'est que l'initiative iPhone, c'est évidemment une première aventure pour nous dans le monde du mobile et ce ne sera pas la dernière, ça c'est évident. ONF.ca, on est loin d'être assis sur nos lauriers de ce côté-là. On est déjà en train de travailler à ce qu'on appelle affectueusement la version 1.5 du site. Donc, on a bon nombre de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations qui sont actuellement en développement et qu'on a hâte, très très hâte de sortir. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir assez rapidement. Le site onf.ca, dans sa forme actuelle, est en ligne depuis janvier et on pourrait peut-être prévoir un petit quelque chose pour souligner notre premier anniversaire. En fait, on a vraiment l'intention de souligner notre premier anniversaire avec quelque chose d'assez gros, dont je ne peux malheureusement pas parler, là, mais pas du tout. Mais on a l'intention de souligner notre premier anniversaire de manière assez intéressante. Donc.
C'est bon, mais on a hâte de voir ça. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette entrevue puis nous avoir un peu livré l'autre côté de la médaille de l'ONF.
Ben, ça me fait plaisir.
Ben, merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt. Bye.
Alors, c'est déjà tout. Si vous avez des commentaires, faites-le à québecbalado.com. Sinon, envoyez-moi un courriel, québecbalado@commercial.gmail.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un fichier MP3, m'envoyer un commentaire audio. Prenez votre iPhone, il y a plein de logiciels pour pouvoir enregistrer des notes, puis envoyez-moi ça par courriel. Ça va me faire très, très, très plaisir. Sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter, devenir mon ami sur Facebook, peu importe, ça va me faire plaisir. Simplement, envoyez-moi un petit mot, une petite note pour me dire que vous êtes auditeur, d'où est-ce que vous me connaissez, parce que si vous me connaissez parce que vous m'écoutez depuis longtemps, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Je vous connais pas nécessairement tous personnellement, donc envoyez-moi un petit mot, ça va toujours me faire plaisir d'être votre ami. Donc, c'est Sylvain Grandmaison qui vous dit à très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion. Ciao!
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est bottée et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. On entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.